Il en est un, en tout cas, à qui ses difficultés de finances profitent et qui fait bien ses affaires sur la pénurie de la caisse royale, c'est messire Nicolas Braque, le premier maître de l'hôtel, qui est aussi le trésorier et le gouverneur des monnaies. Il a monté une petite compagnie de banque, je devrais dire une compagnie de frimes, qui rachète parfois aux deux tiers, parfois à la moitié, parfois même au tiers prix, les dettes du roi et de sa parenté. La machinerie est simple. Un fournisseur de la cour est saisi à la gorge parce que depuis 2 ans ou plus on ne lui a rien versé et qu'il ne sait plus comment payer ses compagnons ou acheter ses marchandises. Il s'en vient trouver messire Braque et lui agite ses mémoires sous le nez. Il a grand air, messire Braque. Il est bel homme, toujours sévèrement vêtu, et il ne prononce jamais plus de mots qu'il n'en faut. Il n'a pas son pareil pour rabattre aux gens leur caquet. Tel qui arrivait, tempêtant, cette fois il va m'entendre, c'est que j'en ai gros à lui dire et je ne lui mâcherai pas mes mots, se retrouve en un tournement, balbutiant et suppliant. Messire Braque laisse tomber sur lui comme une douche de gouttière quelques paroles froides et roides. Vos prix sont forcés, comme toujours sur les travaux qu'on fait pour le roi. La clientèle de la cour vous attire maintes pratiques sur lesquelles vous gagnez gros. Si le roi est en difficulté de payer, c'est que tout l'argent de son trésor passe à subvenir aux frais de la guerre. Prenez-vous-en aux bourgeois comme maître Marcel, qui rechigne à consentir les aides. Puisque vous peinez tant à fournir le roi, eh bien on vous retirera les commandes. Et quand le doléant est bien assagi, bien mari, bien grelottant, alors Braque lui dit, si vraiment vous êtes dans la gêne, je veux essayer de vous venir en aide. Je puis peser sur une compagnie de change où je compte des amis pour qu'elle reprenne vos créances. Je tenterai, je dis bien je tenterai, qu'elle vous soit rachetée pour les 4/6 et vous donnerai quittance du tout. La compagnie se fera rembourser quand Dieu voudra regarnir le trésor, si jamais il le veut. Mais n'en allez point parler, sinon chacun dans le royaume m'en viendrait demander autant. C'est grande faveur que je vous fais. Après quoi, dès qu'il y a 3 sous dans la cassette, Braque prend l'occasion de glisser au roi, « Sire, je ne voulais point, pour votre honneur et votre renom, laisser traîner cette dette criarde, d'autant que le créancier était fort monté et menacé d'un esclandre. J'ai, pour l'amour de vous, éteint cette dette avec mes propres deniers. » Et, par priorité de faveur, il se fait rembourser du tout. Comme c'est lui, d'autre part, qui ordonne la dépense du palais, il se fait arroser de beaux cadeaux pour chaque commande passée. Il gagne au debout, cet honnête homme. Et ce jour du banquet, il s'affairait moins à négocier le paiement des aides refusées par les États de Normandie qu'à traiter avec le maire de Rouen, maître Mustel, du rachat des créances des marchands rouennais. Car des mémoires qui dataient du dernier voyage du roi, et même d'avant, restaient impayées. Quant au dauphin, depuis qu'il était lieutenant du roi en Normandie, avant même d'être duc en titre, il commandait, mais sans jamais solder aucun de ses comptes. Et messire Braque se livrait à son trafic habituel, en assurant le maire que c'était par amitié pour lui et pour l'estime dans laquelle il tenait les bonnes gens de Rouen qu'il allait leur rafler le tiers de leurs profits. Davantage même. Car il les paierait en francs à la chaise, c'est-à-dire dans une monnaie amincie, et par qui? Par lui, qui décidait des altérations. Reconnaissons que, lorsque les États se plaignent des grands officiers royaux, ils y ont quelques motifs. Quand je pense que messire Enguerrand de Marigny fut naguère pendu parce qu'on lui reprochait 10 ans après d'avoir une fois rogné la monnaie, mais c'était un saint auprès des argentiers d'aujourd'hui. Qui avait-il encore à Rouen qui mérite d'être nommé, hors les serviteurs habituels, et Miton le Fol, le nain du dauphin, qui gambadait entre les tables, pourtant lui aussi chaperon emperlé, des perles pour un nain, je vous le demande. Est-ce bonne manière de dépenser les écus qu'on n'a pas? Le dauphin le fait vêtir d'un drap rayé qu'on lui tisse tout exprès, à gants. Je désapprouve cet emploi qu'on fait des nains. On les oblige à bouffonner, on les pousse du pied, on en fait riser. Ce sont créatures de Dieu, après tout. Même si l'on peut dire que Dieu ne les a pas trop réussis. Raison de plus pour leur témoigner un peu de charité. Mais les familles, à ce qu'il paraît, tiennent pour une bénédiction la venue d'un nain. Ah, il est petit, puisse-t-il ne pas grandir, on pourra le vendre à un duc, ou peut-être au roi. Non, je crois vous avoir cité tous les convives d'importance, avec Friquet de Fricamp, Graville, Mennemar, oui, je les ai nommés, et puis, bien sûr, le plus important de tous, le roi de Navarre. Le dauphin lui réservait toute son attention. Il n'avait guère d'efforts à faire, d'ailleurs, du côté du gros d'Harcourt, celui-là ne causait qu'avec les plats. Et il était bien vain de lui adresser parole pendant qu'il engloutissait des montagnes. Mais les deux Charles, Normandie et Navarre, les deux beaux-frères, parlait beaucoup, ou plutôt Navarre parlait. Ils ne s'étaient guère revus depuis leur équipée manquée d'Allemagne, et c'était tout à fait dans la manière du Navarrais que de chercher, par flatterie, protestation de bonne amitié, souvenirs joyeux et récits plaisants, à reprendre empire sur son jeune parent. Tandis que son écuyer, Colin Doublel, déposait les mets devant lui, Navarre, rieur, charmant, plein d'entrain et de désinvolte, « C'est la fête de nos retrouvailles. Grand merci, Charles, de me permettre de te montrer l'attachement que j'ai pour toi. Je m'ennuie depuis ton éloignement. » Il lui rappelait leur fine partie de l'hiver précédent et les aimables bourgeoises qu'ils jouaient au dé, à qui la blonde, à qui la brune. « La cassinelle est grosse à présent et nul ne doute que c'est de toi. » Et de là passait aux affectueux reproches. « Ah, qu'es-tu allé conter tous nos projets à ton père ?» Tu en as retiré le duché de Normandie, c'est bien joué, je le reconnais, mais avec moi c'est tout le royaume que tu pourrais avoir à cette heure. Pour lui glisser enfin, reprenant son antienne, avoue que tu ferais un meilleur roi que lui. Et de s'enquérir, sans avoir l'air d'y toucher, de la prochaine rencontre entre le dauphin et le roi Jean, si la date en était arrêtée, si elle aurait lieu en Normandie. J'ai ouï dire qu'il était à chasser du côté de Gisors. Or, il trouvait un dauphin plus réservé, plus secret que par le passé, affable, certes, mais sur ses gardes, et ne répondant que par sourire ou inclinaison de tête à tant d'empressement. Soudain, il se produisit un grand fracas de vaisselle qui domina les voix des dîneurs. Miton le Fol, qui s'employait à singer les huissiers de cuisine en présentant un merle tout seul sur le plus grand plat d'argent qu'il avait pu trouver, Miton venait de laisser tomber le plat, et il ouvrait la bouche toute grande en désignant la porte. Les bons chevaliers normands, déjà fortement abreuvés, s'amusaient du tour qu'ils jugeaient fort drôle, mais leurs rires se coincèrent aussitôt dans leur gorge, car de la porte surgissait le maréchal d'Audrehem, tout armé, tenant son épée droite, la pointe en l'air, et qui leur criait de sa voix de bataille que nul d'entre vous ne bouge pour chose qu'il voit s'il ne veut mourir de cette épée. « Ah, mais ma litière est arrêtée. Ah oui, nous voici arrivés, je ne m'en avisais point. » Vous direz la suite après souper.